E-Radio présente À l'Est du Nouveau. Mathieu Boidron.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez À l'Est du Nouveau, une émission proposée par E-Radio en partenariat avec le site d'information en ligne Le Courrier d'Europe Centrale. Du Courrier d'Europe Centrale d'ailleurs, aujourd'hui il va en être question. Il y aura bientôt 12 ans que Viktor Orban est installé à la tête du gouvernement hongrois. Au printemps prochain, des élections législatives auront lieu qui s'annoncent plus disputées que les précédents scrutins de 2018, 2014 et 2010. L'opposition, de gauche comme de droite, est en effet parvenue à constituer un front relativement uni face au Fidesz. Dans ce contexte, un groupe de journalistes spécialistes de ce pays publie en ce mois de février 2022, aux éditions Plein Jour, en collaboration justement avec le Courrier d'Europe Centrale, un ouvrage intitulé « La Hongrie sous Orban ». Pour en parler aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir à mon micro le coordinateur justement de ce volume collectif, Corentin Léotard, journaliste installé à Budapest depuis 15 ans. Vous êtes, Corentin, rédacteur en chef du Courrier d'Europe Centrale et correspondant de presse pour plusieurs journaux, dont La Libre Belgique, Mediapart ou encore Ouest France. Eh bien bonjour Corentin, bienvenue à l'antenne de radio.
Bonjour à tous, bonjour Mathieu.
Alors, est-ce que vous pouvez d'abord, pour commencer, nous expliquer à nos auditeurs ce qui en fait vous a motivé? Vous êtes installé depuis de nombreuses années en Hongrie. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage et pourquoi maintenant en fait? Quels sont quelque part vos objectifs avec ce livre?
Pourquoi maintenant? C'est vrai que, comme vous l'avez souligné, des élections législatives approchent. En 2014 et 2018 déjà, on nous avait présenté un peu ces élections comme celles de la dernière chance pour l'opposition. Cette année encore, on les présente comme des élections de la dernière chance, mais il est vrai que plus le temps passe et plus la situation devient critique en Hongrie, plus l'opposition s'affaiblit, plus la démocratie est asphyxiée. Et il est vrai que dans ce contexte, les élections de 2022 qui se profilent paraissent tout particulièrement importantes, accompagnées aussi voilà d'une sorte de voilà de sentiment d'urgence du côté de l'opposition. Et donc voilà, on savait que ces élections allaient présenter un intérêt particulier, avoir un retentissement international ou tout au moins européen, notamment du fait que se dérouleront les élections françaises. Une semaine plus tard, et qu'il va y avoir forcément un effet de miroir entre les deux pays. Donc le contexte nous semblait tout à fait opportun pour sortir un livre qui irait au-delà des, je dirais pas des clichés, mais du traitement journalistique habituel qui est réservé à ce petit pays de 10 millions d'habitants qu'on connaît relativement mal en Europe de l'Ouest. Et donc, paradoxalement, le Premier ministre, le dirigeant Viktor Orban, est très connu. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inédit dans l'histoire de la Hongrie, d'avoir un dirigeant connu au-delà de ses frontières. Donc voilà, la dichotomie entre un dirigeant très connu et un pays et une société mal connue faisait que nous avions envie de montrer la Hongrie et sa société dans ses multiples facettes, en rencontrant des divers acteurs, c'est-à-dire des citoyens lambda, des représentants politiques, des gens du secteur associatif, et aussi de déblayer des histoires qui sont peu ou mal connues et qui nous semblaient être de nature à expliquer un peu les dynamiques sociales et politiques dans la Hongrie d'aujourd'hui.
Alors Orban, justement, comme vous le disiez, effectivement, un dirigeant très connu et puis qui a maintenant la particularité depuis le départ d'Angela Merkel d'être le plus vieux dirigeant actuellement en poste au sein des pays membres de l'Union européenne. Comment est composé ce volume et est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce qu'on y trouve précisément?
Alors, on a voulu faire quelque chose d'éclectique. Alors, je précise d'emblée que c'est pas un essai politique. On voulait vraiment faire un ouvrage de reportage et d'histoire qui parle à la fois de questions de société, qui parle de culture, avec évidemment en filigrane évidemment cette situation politique particulière que l'on n'élude pas. Alors, par exemple, on va à la rencontre de Roms, de la minorité Roms qui représente à peu près 8% de la population. On fait un petit reportage lors de l'inauguration d'une synagogue, car il faut savoir que la vie culturelle juive est florissante, je dirais pas en Hongrie, mais tout au moins à Budapest. On va à la rencontre C'est Hélène Bienvenue pour la cité qui va à la rencontre de femmes qui, dans un village, vont relancer une fromagerie pour essayer de s'en sortir. C'est Joël Le Pavou qui va dans le nord-est du pays à la rencontre du dernier maire communiste, ce qui nous permet d'aborder la question des fonds européens, du rôle des fonds européens dans une région industrielle en crise. C'est le journaliste Daniel Pseni qui va déterrer l'histoire de Gaudiopolis, cette république des enfants qui avait été créée après la Seconde Guerre mondiale, ou qui fait un chapitre sur le rôle de la photographie, par exemple. Donc voilà, on a voulu aborder un peu différentes facettes. Évidemment, le tableau ne peut pas être complet, parce qu'on ne peut pas mettre tout un pays et sa complexité dans un livre. Mais voilà, on essaie de toucher un petit peu à différentes facettes.
Et ce travail, évidemment, c'est le fruit de toutes ces années de présence sur le terrain. Tous ces reportages, je crois, sont inédits. Et c'est comment vous avez travaillé, avec qui, comment avez-vous composé en fait ce volume?
En fait, voilà, l'idée était de se dire, on est 5 ou 6 journalistes francophones présents sur place dans un petit pays. C'est assez exceptionnel, parce que si on regarde dans les pays autour, il y a certains pays où il n'y a pas le moindre journaliste correspondant. Donc voilà, on s'est dit, on est tous sur place depuis, on vous l'a dit, moi une quinzaine d'années. Joël Le Pavou, bientôt 10. Hélène Bienvenue a passé pareil une décennie ici. Daniel Pseni est installé ici aussi depuis peut-être 5 ans à Budapest. Donc voilà, on avait tous accumulé quand même des expériences de reportage, notamment qu'on avait à cœur de réécrire, d'augmenter, de mettre dans un ouvrage qui ferait qui serait cohérent et qui ferait sens. Donc ensuite, comme on a travaillé, c'est un travail vraiment vraiment journalistique. Hein. Chacun a amené les sujets qui lui tenaient à cœur et dont il pensait qu'il pouvait apporter quelque chose, avec vraiment toujours cette règle qui serait de partir vraiment de rencontres humaines pour écrire nos reportages. Hein. J'insiste encore, c'est pas de l'analyse politique qu'on fait. Hein. Donc voilà, ensuite, contact des personnes et puis déplacement sur le terrain, voilà.
Très bien, donc carnet et crayon en main, et puis vous avez, je crois, beaucoup sillonné le pays en train et en voiture pour rencontrer les personnes que vous interrogez dans vos pages.
Oui, c'est ça. On est allé un petit peu partout, en Hongrie. Le titre de l'ouvrage publié chez Plein Jour, il s'appelle La Hongrie sur Orban, et le sous-titre, c'est Histoire de la Grande Plaine. C'est vrai que le début du livre commence dans la Grande Plaine. Enfin, disons que le premier chapitre se termine plutôt dans la Grande Plaine. On a plusieurs reportages, donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Alfeul, c'est la grande plaine qui s'étire sur tout le flanc sud-est du pays. On a été, on voulait surtout pas rester à Budapest. On est à Pécs, la ville du sud de la Transdanubie, cinquième ville du pays, ville étudiante, où Jeanne Pomereau nous raconte l'histoire d'un chanteur de rock, par exemple. On va dans les monts Buc, dans le nord-est du pays. Voilà, donc on essaie de couvrir un petit peu d'être aussi éclectique dans les régions où on se rendait. Peut-être que l'ouest du pays, qui est dans le plus proche de l'Autriche, est moins abordé.
En tout cas, effectivement, on est assez loin de la Hongrie touristique, la Budapest de la fête, en fait, que généralement les Européens d'Europe de l'Ouest connaissent davantage. On est vraiment là au cœur d'une réalité sociale tout à fait spécifique, et effectivement, comme vous le disiez, sans doute moins connue.
Oui, c'est vrai que à la fois la Hongrie est très peu connu et très loin de nos radars en France, mais paradoxalement, Budapest, au cours des 5-10 dernières années, est devenue une destination touristique phare, ce qui change un petit peu les perceptions. Et voilà, maintenant, Budapest est connue comme une ville très sympa à vivre, une ville de fête. On pouvait voir encore à la fin de l'année, au 31 décembre, tous les les milliers de touristes français qui avaient déferlé sur Budapest pour profiter des bains et des lieux de fête. Voilà, nous, on voulait montrer aussi autre chose. Mais donc plusieurs reportages ont pour décor quand même Budapest. Par exemple, ce 7e arrondissement du quartier de la fête. Mais on voulait aussi montrer évidemment la réalité des espaces ruraux, des campagnes, des régions industrielles en crise, comme je disais, de pêche d'autres centres urbains où il se passe des choses. Voilà.
Eh bien, nous allons marquer une rapide pause musicale avant de nous retrouver pour la seconde partie de notre émission.
Alakul, de te végleg úgy maradtál. Nem figyeltem, bocs, mit is mondtál. Nem jut szóhoz a gondolat, meg a múlt sem igazán érdekel. Megszúrom egy tűvel az új begyed, átszivárog a vér a lombokon. Összekötöm fent a pontokat, összeragasztom, ahol szétrepet. Hát a kirajzolódik, nem múlik el, értem, de tényleg indulnom kell. Nincs időm megvárni most veled, lehúzom, ami feletted lebeg. Lehúzom, ami feletted lebeg. Lehúzom, ami feletted lebeg. Az én városom tartja a mennyet is, tartja a buklot lent, amíg lehet. Az ablakra lehellem ki neked éppen a lelkemet. Írok rá valami szívbe markolót, az elhordja a törmelékeket. Nem tart ez már se lent, se fenn, a föld nálam marad az ég veled. A föld nálam marad az ég veled.
Radio à l'est du nouveau. Nous venons d'entendre la chanson Ég veled du groupe hongrois Elephant. Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoindraient. Vous êtes sur E-Radio dans le cadre de l'émission À l'est du nouveau et je suis toujours en compagnie de Corentin Léotard, journaliste à Budapest, avec qui nous évoquons l'ouvrage collectif qu'il a dirigé, qui paraît ce mois-ci aux éditions Plein Jour et qu'il a consacré avec plusieurs de ses collègues à la société hongroise et hongrois sous Orban. Alors Corentin, ce qui est frappant, c'est que votre livre, comme vous l'évoquiez à l'instant, ne parle qu'assez indirectement de politique. Hein. Vous brossez davantage un tableau social de la Hongrie d'aujourd'hui. Et pourtant, ce qui est frappant, c'est qu'on sent bien à chaque page que la politique est partout, elle imprègne tout particulièrement votre volume.
Oui, bon, c'est sûr qu'un des objectifs de l'ouvrage, c'était aussi d'essayer de comprendre ce qu'est ce laboratoire politique européen qu'est la Hongrie. Hein. La Hongrie, c'est un pays qui est depuis 2010 dirigé par pas un gouvernement qu'on pourrait qualifier de national conservateur, national populiste. Donc voilà, j'oserais dire que la Hongrie avait un coup d'avance sur des dynamiques que l'on voit partout à l'œuvre en Europe, hein, que ce soit avec le Brexit, la Pologne, du PiS et la France maintenant, voilà, avec Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Donc on voulait pas du tout éluder ces questions-là. Donc oui, en fait, la politique est vraiment en filigrane de l'ouvrage et parfois est le cœur de chapitre. Par exemple, quand je vais rencontrer un ancien cofondateur du Fidesz qui aujourd'hui est un des directeurs du fameux SIGET Festival et qui a interpellé le président de la République de façon très spectaculaire il y a quelques mois. Bon, voilà, là c'est un chapitre qui est vraiment purement politique. Et puis, et quand on va, voilà, on voulait faire une place assez importante au sujet de société, c'est-à-dire la question de la pauvreté, du travail. C'est des questions qui sont abordées, qui sont évidemment éminemment politiques.
Et donc, du coup, vous qui êtes installé depuis 15 ans désormais à Budapest, en Hongrie, que vous connaissez bien ce pays et qui connaissez bien ce pays, est-ce qu'il a, je suppose en tout cas, est-ce qu'il a beaucoup changé ce pays? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Quel est votre regard en fait sur l'évolution, les mutations qu'a connu la Hongrie depuis les années 2000-2010?
Ah, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Moi, je peux, voilà, quand je suis arrivé la première fois en Hongrie, c'était en 2004, et c'était pendant la décennie social libérale qui s'est très mal terminée à la fin des années 2000 et qui a un peu déroulé le tapis rouge un peu aux nationaux populistes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc le changement de décor politique a été radical. On est passé vraiment de quelque chose de très, je vais pas dire libertaire, mais à un gouvernement autoritaire à partir de 2010. Par contre, le décor n'a pas les gens. Est-ce qu'ils ont été aussi marqués? Est-ce que la société a autant changé? J'en suis pas sûr. C'est par exemple d'ailleurs ce qu'on montre dans le livre, dans un chapitre. C'est par exemple sur la question de l'homosexualité, où la société hongroise est globalement de plus en plus tolérante face à l'homosexualité, quand bien même les discours qu'on entend aujourd'hui, d'homophobie, on les entendait pas, les discours politiques, je parle, on les entendait pas avant 2010. Donc ça, voilà.
Est-ce que dans tout ce paysage de reportage que vous avez, que vous proposez, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué, qui vous semble révélateur de ce qu'est la société hongroise aujourd'hui? Vous évoquiez les Roms, vous évoquiez ce maire communiste. Est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui vous semblent tout particulièrement frappants?
Il y a un chapitre que j'ai beaucoup aimé écrire qui est tiré d'un petit reportage où on ne va pas cacher aux auditeurs que vous y étiez présent.
Tout à fait, c'est un grand souvenir.
Voilà, on s'est retrouvés tous les deux un peu par hasard à Pisco dans le sud de la Hongrie, dans ce petit village de quelques centaines d'habitants. À majorité rome et qui a aussi une petite minorité croate, parce qu'on est vraiment adossé à la Croatie. Et voilà, c'est un tout petit reportage. On était resté une demi-journée sur place, parler aux habitants, et ça avait été à la fois un moment très agréable, très intéressant et très plaisant ensuite à écrire. C'est vrai que c'est à moi de vous poser une question. Est-ce que le rendu du chapitre vous semble correspondre à ce que vous aviez vu?
Mais effectivement, l'ambiance était tout à fait particulière, et je pense que là il faut effectivement en dire un mot aux auditeurs, parce que je crois qu'on touche au cœur de ce qui fait l'intérêt de votre livre, c'est-à-dire qu'on sent une réalité du terrain qui est tout à fait bien rendue. Et ce qui est frappant dans ce village, c'est notamment le personnage, j'espère que vous allez nous en dire un mot, de la mère de Pisco.
Madame Margit Orsós, oui,
tout à fait.
Qui avait été conseillère municipale et aujourd'hui maire de ce village, qui nous a reçus de façon très très sympathique. Hein, d'ailleurs, alors qu'on arrivait sans s'annoncer un samedi matin, bon, elle a pris une heure pour discuter avec nous. En plus, elle savait que qu'on venait parce que lors des élections européennes 10 jours plus tôt, 100% de son village avait voté en faveur du parti de Viktor Orban, ce qui avait interpellé évidemment dans, dans la presse nationale, et on avait décidé d'aller voir sur le terrain. Donc voilà, on en arrivait avec suspicion, en disant bon voilà, les votes ont sans doute été achetés, et on a questionné Madame la maire très ouvertement là-dessus, et bon. Ça donnait lieu à une conversation relativement intéressante, mais qui montrait aussi quand même le clientélisme qui a été mis en place par le gouvernement Fidesz à destination de ces villages les plus pauvres du pays qui ont voté le plus en faveur du parti au pouvoir. Alors je précise évidemment que le clientélisme c'est pas quelque chose de nouveau, mais disons que le Fidesz a dépassé le maître socialiste en la matière.
Oui, et puis des habitants du village qui n'étaient pas forcément dupes et qui semblaient en tout cas assez informés de la situation malgré ce qu'on peut souvent présenter.
Oui, on a aussi, c'est vrai qu'on a on a pu parler à pas mal d'habitants du village et de politique. On a parlé d'immigration, qui est une question très mise en avant par le gouvernement. Et c'est vrai que ça permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on peut voir ou entendre dans les médias. Il y a des gens qui voilà, il y a des Roms qui nous disaient ils ont peur des migrants, que des migrants viennent leur voler le fruit de leur travail. D'autres qui disaient on sait très bien que on ne raconte que des bêtises à la télévision, etc. Donc voilà, c'était pas univoque.
Et vous aviez évoqué tout à l'heure également un autre reportage qui me semble intéressant d'évoquer peut-être ici à l'antenne de radio, c'est ce personnage qui est le dernier maire là encore de communiste de Hongrie. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots?
Ah, monsieur le maire dont le nom immédiatement m'échappe, c'est Joël Le Pavou qui allait le voir. Moi j'étais présent avec lui, mais c'est Joël qui a signé l'entièreté du reportage. Non, pardon, Joël il était retourné une deuxième fois, donc en fait il allait deux fois dans ce village. C'est un petit village perdu dans les collines qui se trouve à quelques kilomètres de Oost. Oost, qui est une ville, une ancienne ville sidérurgique aujourd'hui en crise. C'est un peu le Lens ou le Valenciennes français. Donc la pauvreté est extrêmement prégnante, la situation est très difficile. Et dans ces collines, le maire de Borchaud-Botha essaye tant bien que mal de redonner vie au village. Et bon, il est passé maître dans l'art de remplir des demandes de subventions européennes, les subventions européennes dans les campagnes d'Europe centrale et orientale, c'est quand même une bouée de sauvetage, mais encore faut-il être capable de remplir les bons formulaires. C'est un maire qui, au-delà du côté anecdotique qui fait qu'il est le dernier maire communiste du pays, c'est surtout un monsieur très dévoué qui a réussi à relancer l'école primaire et maternelle, qui a un centre communautaire assez dynamique, qui a tout un tas de programmes sociaux à destination de la population, qui a réussi à faire revenir des médecins dans le village. Donc voilà, c'est un village qui dans lequel la majorité des gens vivent dans la pauvreté, mais qui quand même dans lequel ils se serrent les coudes et où on arrive à vraiment grâce à l'entraide à survivre et à vivre des fois mieux qu'ailleurs.
Oui, parce que ce que montre aussi votre livre, c'est que il existe des poches de prospérité en Hongrie, mais que à côté de cela, il y a aussi des territoires qui sont très marginalisés et en très grande déprise et en très grande difficulté.
Mais c'est vraiment frappant de voir à Budapest, dans les plus grandes villes du pays, où depuis 5 ou 10 ans, on constate vraiment une augmentation du nombre de SUV, de grosses berlines, de voitures qui coûtent 80 000 euros dans les rues. Un peu ce qu'on voyait plus dans les Balkans, en Europe de l'Est, hein, par exemple en Ukraine. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas trop en Hongrie. Et maintenant, voilà, on voit vraiment ça. On voit vraiment qu'il y a une classe de nouveaux riches qui s'est extrêmement développée. Et à côté de ça, des régions qui sont qui sont encore dans leur jus, hein, si j'ose dire. C'est par exemple, bon, voilà, leur Manchag tout au sud du pays, là où on était, ou dans le reste du pays, à Borchaud-Botta. C'est des régions qu'ont subi de plein fouet, évidemment, la transition vers l'économie capitaliste il y a presque 30 ans maintenant, début des années 90. La perte massive d'emplois et qui n'ont jamais été recréés. Donc, et c'est des populations qui doivent se débattre avec des filets de sécurité sociale extrêmement lâches, qui fait que voilà, il y a une pauvreté qui est quand même très très importante.
Alors peut-être une dernière question pour terminer, une question qui permet peut-être, j'espère en tout cas, de prendre un peu de hauteur par rapport au terrain où nous nous tenions jusqu'ici. Question peut-être difficile, sur laquelle je ne sais pas si vous pourrez apporter une réponse définitive, mais j'aurais quand même envie de vous demander finalement en quoi Viktor Orbán, en quoi son parti, le Fidesz, ont-ils, ou peut-être n'ont-ils pas d'ailleurs, hein, au contraire, contribué à modeler, à forger une Hongrie à leur image?
Ah oui, c'est une question en effet très très difficile. Merci d'avoir gardé pour la fin. Les avis sont vraiment divergents. Il y a des gens qui pensent que la société hongroise va être marquée à très long terme par cette expérience de l'urbanisme. D'autres, au contraire, qui pensent que la révolution culturelle conservatrice mise en place par le Fidesz au début des années 2010, n'imprimant rien les esprits, et que les choses reviendront à normal sitôt le Fidesz écarté du pouvoir. J'avoue que j'ai du mal à trancher entre ces deux points de vue. Une chose est sûre, la Hongrie a beaucoup changé en 10 ans, mais c'est pas seulement au niveau politique, hein. On a vu que l'économie, je viens d'en parler, hein, l'émergence quand même d'une classe aisée est assez visible, par exemple. Ensuite, voilà, est-ce que la Hongrie a l'image d'Orban? Moi, je dirais quand même que la Hongrie, l'image de la Hongrie chrétienne et défenseuse des valeurs chrétiennes et gardien de l'Europe, celle donc qui est promue par Viktor Orban. Bon, quand on vit à l'intérieur, on n'y croit pas une seule seconde. Et d'ailleurs, je crois que la majorité des Hongrois n'y croit pas non plus. Aux auditeurs de radio, je peux garantir que voilà, la société hongroise est une société très sécularisée et dont le rôle de la religion est très faible. L'impact social des églises est quasi nul. Et par exemple, si on prend ce critère marquant, la Hongrie n'a pas changé et la Hongrie suit, la société hongroise suit le même chemin que les autres sociétés occidentales, c'est-à-dire vers une sécularisation et un rôle mineur de la religion, pour ne prendre que ce critère-là. Voilà.
Donc effectivement, il n'y a pas de singularité spécifiquement centre-européenne, en tout cas à tous les points de vue.
Ah bah, il y a une singularité hongroise nationale dans son histoire, mais comme tous les pays. Mais oui, on a cette émergence du national-populisme dont on a souvent considéré qu'elle ne touchait que l'Europe centrale et de l'Est. Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, on se rend bien compte, il suffit de regarder les sondages en France pour les élections qui arrivent, il suffit de regarder dans les pays voisins pour se rendre compte que c'est pas une spécificité centre-européenne. Évidemment, l'Europe centrale et la Hongrie, c'est ce qu'on, dans l'ouvrage, ont vraiment des... sont vraiment face à des questions cruciales, notamment autour des inégalités de richesse et de pauvreté. Mais voilà, donc il y a des spécificités, mais le national-populisme ne leur est pas réservé.
Eh bien, merci beaucoup, Corentin, pour cette plongée dans une réalité sociale certainement méconnue hors des frontières de la Hongrie. Merci aussi pour cette invitation à prendre un certain recul face aux poncifs véhiculés sur ce pays. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission, naturellement tournée vers l'Est.
Euradio vous a présenté À l'Est du Nouveau. une émission de Mathieu Boidron, réalisée en partenariat avec le Courrier d'Europe Centrale. À l'Est du Nouveau, à retrouver sur vos réseaux sociaux et sur euradio.fr.